Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Élections au Malawi, pays d'Afrique australe enclavé entre la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie. L'électorat sera aux urnes ce mardi pour un scrutin présidentiel qui s'annonce serré entre le chef de l'État sortant Peter Mutharika, en quête d'un second mandat, et deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection. Au total, 7 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais le scrutin se joue entre Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, selon les observateurs. Les 6 800 000 électeurs malawites renouvellent aussi leurs députés et les conseillers locaux. Politique en République démocratique du Congo, nombreuses réactions à Kinshasa après la nomination par le président Félix Tshisekedi de Sylvestre Ilunga, l'ex-directeur de la Société nationale des chemins de fer, au poste de Premier ministre. Si à la coalition Lamuka de Martin Fayoulou, on qualifie cette nomination de non-événement, le Front commun pour le Congo FCC, dont est issu le nouveau chef du gouvernement, se dit satisfait de son choix. Quant à l'UDPS, le parti du président de la République, c'est la prudence qui prédomine alors que les jeunes de la capitale Kinshasa attendent du nouveau Premier ministre nommé lundi des réponses aux besoins sociaux de base. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À l'opposition, on n'attend pas grand-chose de la nomination de Sylvestre Ilunga comme Premier ministre. Selon Yves Kitumba, le porte-parole de la coalition Lamuka à Kinshasa, cette nomination, qui est le fruit d'un arrangement entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, s'inscrit dans la continuité de la même gestion du régime passé.
Au niveau de Lamuka, c'est un non-événement parce que c'est la continuité du régime FCC et avec sa mauvaise gestion, le mauvais choix des animateurs, parce que rappelez-vous que M. Ilunga n'a pas laissé une gestion éloquente au niveau de la SNCC également. M. Ilunga a conduit cette réforme monstre des entreprises publiques. Nous notons également la mauvaise foi de l'autorité morale du FCC qui veut pérenniser la souffrance du peuple congolais.
Ce point de vue n'est pas partagé par Pius Mwabilou, député national élu de Kinshasa, cadre du Front commun pour le Congo.
Réaction de grande satisfaction, parce qu'il fallait finalement que nous ayons enfin un Premier ministre. Il est là. C'est un très bon technologie. Un homme expérimenté. Bon, maintenant, il faudrait qu'on le voie à l'œuvre. Je ne doute pas un seul instant qu'il va faire du bon travail et il faudrait maintenant que ce soit avec l'appui de toutes les parties.
À l'UDPS, on se montre prudent. Augustin Kabuya, le nouveau secrétaire général du parti de Félix Tshisekedi, attend voir le nouveau Premier ministre à l'œuvre.
Il n'a pas encore commencé le travail, il n'a pas encore présenté son gouvernement et son gouvernement n'a même pas encore été accepté au niveau de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire, c'est de lui souhaiter une bonne chance. C'est quelqu'un qui a un CV costaud, c'est un professeur de l'université, mais tout dépend aussi de la volonté politique qu'il anime.
À la société civile, on recommande au nouveau Premier ministre de s'engager à lutter de manière efficace contre la corruption. Maître Georges Kapiamba est de l'ONG ACAJ, Association Congolaise d'Accès à la Justice.
Nous saluons la nomination du nouveau Premier ministre et nous lui recommandons vivement à ce qu'il puisse s'engager de manière claire et publique, à l'instar du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement des deniers publics.
Et dans les rues de Kinshasa, les jeunes qui ne connaissent que très peu le nouveau Premier ministre attendent toutefois de lui des solutions aux vrais problèmes que rencontrent la société congolaise en général et la jeunesse en particulier.
Ce que moi j'attends de lui, social d'abord, et qu'il pense aussi aux fonctionnaires, parce que ex-premier ministre, il a rien fait. Maintenant, moi, je lui demande de penser aussi, nous aussi, des étudiants.
Bien qu'il n'est pas connu comme tel, mais notre souci à nous, c'est de venir répondre aux attentes de la population.
Le premier ministre, monsieur Ilunga, particulièrement, je lui donne la chance de bâtir encore un Congo nouveau.
J'attends beaucoup de lui, parce que je suis jeune entrepreneur.
Ce que nous pourrions demander à ces derniers, c'est de pouvoir mieux gérer entre les régimes passés et les régimes présents.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Soudan, les leaders du mouvement de contestation ont annoncé ce mardi leur intention d'organiser une grève générale à une date indéterminée suite à l'impasse dans leurs négociations avec les militaires au pouvoir sur la transition politique dans le pays. Les discussions entre les deux parties lundi soir n'ont pas abouti à un accord sur la présidence et le taux de représentation entre civils et militaires au sein du futur conseil souverain chargé de superviser la transition. Et ce, plus d'un mois après le renversement du président Omar al-Béchir. Mais malgré leurs désaccords, les deux camps ont souligné dans un communiqué commun, après les toutes dernières discussions, leur intention de poursuivre le dialogue pour parvenir à un accord répondant aux aspirations du peuple soudanais. Afrique de l'Ouest maintenant, au Bénin, le président Patrice Talon s'est adressé hier soir à ses concitoyens. Dans un message diffusé sur la télévision nationale, le chef de l'État est revenu sur les violences post-électorales. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Patrice Talon a invité les Béninois à tirer les leçons des manifestations post-électorales. Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique, a-t-il déclaré. Il dit regretter les victimes des deux jours de manifestations à Cotonou.
Cela est très regrettable. Davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense.
Patrice Talon est aussi revenu sur le système partisan qui, selon lui, reste une réforme délicate mais nécessaire. Il a invité les 83 nouveaux députés à se mettre résolument au service du Bénin tout entier pour le vote de lois utiles.
Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays.
Le chef de l'État a regretté l'assassinat de Fiacre Guedi, l'un des guides du pacte de la Pendjari, l'enlèvement des deux touristes français avant d'appeler le peuple béninois à accompagner les réformes engagées pour révéler le Bénin aux yeux du monde pour amorcer le développement tant attendu. De Cotonou, Ginette Fleur Dandé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le ministre du Tourisme a lancé lundi le programme Sublime Côte d'Ivoire, un projet ambitieux d'un coût de 3200 milliards de francs CFA qui vise à développer le tourisme étranger. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Notre ambition, c'est de devenir d'ici à 2025 la cinquième destination touristique africaine et peser 12% du PIB, soit environ 300 milliards de francs CFA, a déclaré le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana. Il indique aussi que le projet permettra de créer 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2016. Le ministre Fofana a notamment mis l'accent sur la ville de San Pedro, entourée de belles plages. Il estime que le deuxième port du pays était stratégique pour le développement touristique en Côte d'Ivoire. Sur les 3,200 milliards à mobiliser, 1,500 milliards seront concentrés à l'État ivoirien et le reste par des investisseurs privés. Plus de 480 milliards de francs CFA seront consacrés à la région de San Pedro pour la réalisation des infrastructures hôtelières, a précisé le ministre ivoirien.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Moyen-Orient, les enquêteurs de l'ONU travaillant sur les exactions imputées au groupe État islamique contre les Yazidis ont exhumé 12 charniers en Irak. Leur objectif, réunir des témoignages pouvant être utilisés devant la justice. Yacouba Ouedraogo.
Dans le rapport, le chef de la commission d'enquête onusienne, Karim Assad Ahmad Khan, indique que les investigations de ces 48 enquêteurs sont focalisées sur un massacre de Yazidis en 2014. À cela s'ajoutent des crimes à Mossoul entre 2014 et 2016 et la mort de recrues militaires irakiennes dans la région de Tikrit en juin 2014. Un premier charnier avait été exhumé par la commission à la mi-mars à Kodjo, localité yazidi du nord de l'Irak. Les avancées sont plus lentes que prévues, note Karim Assad Ahmad Khan dans le rapport remis au Conseil de sécurité. Il souligne la nécessité d'établir des procédures claires et efficaces pour utiliser les preuves lors de poursuites judiciaires, ajoutant qu'un programme de protection des témoins a été mis en place. Le Conseil de sécurité a créé en 2017 une équipe d'enquêteurs pour s'assurer que le groupe État islamique réponde d'éventuels crimes de guerre en Irak et en Syrie. Ce dossier est également porté par le prix Nobel de la paix yazidi Nadia Mourad et l'avocate libano-britannique Amal Clooney. Selon l'ONU, le massacre des yazidis, une minorité kurdophone, pourrait constituer un génocide. Le groupe État islamique, vaincu en Irak fin 2017, a laissé derrière lui plus de 200 charniers qui pourraient renfermer jusqu'à 12 000 encore, selon l'ONU.
Bras de fer États-Unis, Iran, les hauts responsables du Pentagone et de l'état-major américain informeront ce mardi à huis clos tous les parlementaires du Congrès américain sur les tensions entre Washington et Téhéran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devrait aussi s'adresser aux plus de 500 élus conviés lors de la même réunion. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.